Aujourd'hui, je voudrais continuer un petit peu sur ce qu'on a commencé la dernière fois. Je vous avais parlé sur le thème « Libre de toute peur ». Libre de toute peur. Et en fait, alors que je me préparais pour aujourd'hui, c'est comme si j'avais l'impression que ce n'était pas terminé et qu'il y avait d'autres choses à apporter. Et donc, ce message, ben, c'est « Libre de toute peur » numéro 2. Et en fait, « Libre de toute peur » pouvait déjà plus ou moins s'intégrer dans une série qui s'appelle « Comment va ton cœur ?». Et donc, on arrive déjà au numéro 11 ici. Mais dans ce « Libre de toute peur » numéro 2, je voudrais particulièrement parler un petit peu des inquiétudes, des soucis et plus largement du stress. Et on a vu dans le dernier message que la peur, c'est un sentiment, c'est une émotion qui est produite par des circonstances réelles ou imaginées. Soit il se passe quelque chose qui fait peur, soit on envisage quelque chose de difficile et ça va créer la peur. On a vu que la peur a pour origine la chute, le péché, et donc que nous en sommes rachetés en Jésus-Christ et nous naissons de nouveau. Nous avons vu que nous pouvons être participants à la nature divine, être assurés en lui et surmonter ce sentiment, puisque finalement ça reste une foi qui est mal orientée. Et donc nous pouvons réorienter notre foi en accordant davantage notre confiance, notre attention sur Dieu, sur sa parole et sur sa puissance au-dessus de quoi que ce soit d'autre. L'Écriture nous dit que Dieu a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous n'avons plus à être intimidés par ce que nous entendons, par ce qui se passe autour de nous, par ce que nous voyons, mais nous pouvons être courageux, plein d'audace, nous fortifier par rapport à ce que nous savons, par rapport à ce que Dieu dit, par rapport à ce qui est la vérité. Et l'une des manifestations de la peur, ce que j'avais bien dit, libre de toute peur. En fait, il y a différents types de peurs qui sont opérantes. Il peut y avoir la peur d'échouer, il peut y avoir la peur de la mort, il peut y avoir la peur de se tromper, il peut y avoir des peurs qui nous retiennent comme dans une timidité, on en a déjà traité ailleurs. La peur d'être abandonné ou rejeté, on en a aussi traité dans cette série. Mais l'une des manifestations ou l'une des formes que peut prendre la peur, c'est souvent les inquiétudes, les soucis et éventuellement ce qu'on peut appeler le stress aussi. Et l'inquiétude, c'est quelque chose qui est profondément nocif. C'est un poison terrible. L'inquiétude vous empoisonne. Jésus nous dit dans la parabole du semeur, dans plusieurs des évangiles, que les soucis de la vie étouffent la parole de Dieu et la rendent infructueuse. Proverbe 12, 25 nous dit que l'inquiétude dans le cœur d'un homme l'abat. Donc l'inquiétude, c'est quelque chose qui a des effets terribles. Et même physiquement, aujourd'hui, il est largement reconnu qu'un bon nombre de pathologies, c'est-à-dire certaines maladies, certains symptômes, en fait, sont directement liés à l'inquiétude, à la peur, au souci, au stress. Et toutes ces angoisses et tous ces maux pèsent sur les gens, même physiquement. Et on arrive dans plein de choses comme des dépressions, les burn-out, etc., qui sont des choses qui sont à la fois morales et à la fois physiques. Les gens se retrouvent complètement à bout de force, ils se retrouvent complètement dans des déséquilibres. Mais aujourd'hui, je ne voudrais évidemment pas faire l'apologie de la peur, du stress ou de l'inquiétude, mais au contraire, je voudrais vous montrer très simplement, de façon pratique, simple, trois directives très pratiques pour être libre de l'inquiétude, des soucis et du stress. Je vais vous montrer à travers la parole de Dieu juste trois choses très simples auxquelles j'associe une application vraiment pratique et concrète. Et si nous les pratiquons, nous pouvons vivre libres de toute inquiétude, de tout souci et de tout stress. Alors, le premier point, ou cette première instruction des Écritures, cette première clé, si on peut dire, pour être libre de l'inquiétude, des soucis et du stress, c'est, ça peut être étonnant, mais c'est être reconnaissant. Être reconnaissant. Philippiens 4, versets 6 et 7. Philippiens 4, 6 et 7. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et en fait, au verset 6, certaines versions donnent, à la place d'action de grâce, ils disent « avec reconnaissance ». En fait, action de grâce, ça veut dire merci, être reconnaissant. Et on peut se dire ici, mais il est dit de ne pas s'inquiéter, mais de faire connaître nos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. Alors oui, on peut appliquer cela en disant que lorsqu'on demande à Dieu quelque chose, quand il connaît mes besoins, je lui dis déjà merci parce qu'il répondra. D'accord, c'est une expression de foi. Mais je réalise que parfois nous nous inquiétons parce que nous ne reconnaissons pas vraiment ce que nous avons déjà. Parfois nous nous inquiétons parce que nous ne reconnaissons pas vraiment ce que Dieu a déjà fait pour nous. Parfois nous nous inquiétons parce qu'il nous manquons de reconnaissance envers qui est Dieu, envers comment il agit dans nos vies, envers comment il est puissant et il se manifeste. Donc il est dit ici, ne vous inquiétez de rien. S'il nous dit ne vous inquiétez de rien, c'est une instruction, c'est, on pourrait même dire un ordre. Ça veut dire qu'en face, il y a une décision à prendre, une prise de position. Donc l'inquiétude n'est pas quelque chose de plus fort que nous, auquel on ne peut rien faire. L'inquiétude n'est pas non plus quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, pardon, qui fait partie de la vie. L'inquiétude peut se présenter, mais l'inquiétude est quelque chose dont nous devons nous méfier, j'allais dire, par rapport aux effets qu'elle peut avoir. Et surtout, l'inquiétude est quelque chose que nous devons surmonter, dépasser. Nous pouvons et nous devrions vivre libres de toute inquiétude, de tout souci, de tout stress. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Okay. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle que ce soit la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui puisse garder mon cœur et mes pensées en Christ. La paix de Dieu. Ma paix ne vient pas de ce monde. Ma paix ne vient pas de la sécurité financière. Ma paix ne vient pas de la sécurité économique, qui d'ailleurs se fait de plus en plus rare dans bien des régions du monde aujourd'hui. Ma paix ne vient pas d'une position sociale. Ma paix ne vient pas d'une reconnaissance humaine. Ma paix ne vient pas d'un semblant d'équilibre. Ma paix vient de Dieu lui-même et elle surpasse toute intelligence. Donc c'est une paix qu'on ne peut pas apprendre et qu'on ne peut pas acquérir parce qu'elle dépasse tout. Si vous allez à l'université, vous pouvez... comme moi, ça m'est arrivé il y a bien des années maintenant, mais quand j'ai franchi pour la première fois le seuil de l'université, ça peut paraître très symbolique, mais je me suis trouvé là comme dans un grand hall et j'ai eu tout d'un coup une prise de conscience et je me suis dit, waouh, ouais, mais il y a tellement de connaissances, il y a tellement de savoir ici. Il y a la faculté de médecine, faculté de mathématiques, faculté des sciences humaines, faculté d'histoire, faculté de lettres, faculté de toutes les langues possibles. Je me suis dit, waouh, mais il y a tant de connaissances. Tant de science, et en même temps, la réalisation qui montait en moi, c'était, mais Dieu connaît tout ça, et connaît encore plus que tout ça, puisque c'est lui qui a créé toutes ces choses, et c'était vraiment une prise de conscience. Je me suis arrêté un instant, je ne sais pas si les gens m'ont observé, ils ont dit, je ne sais pas ce qu'il a, celui-là, et j'étais là dans ce hall, et j'ai vraiment toute cette réalisation, et je me suis dit, waouh, ça m'impressionnait, et j'ai dit, comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant au-dessus de ça, et la paix que Dieu nous donne, la paix à laquelle nous avons accès, elle surpasse toute intelligence. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas concevoir, on ne peut même pas le faire rentrer dans le cadre de ce qui existe et de ce que nous connaissons, parce que cela nous vient de Dieu lui-même. Et la paix, ça veut dire la sûreté, la sécurité. Mais en même temps, dans la notion de paix dans les Écritures, qui est reliée en hébreu à shalom, en grec le mot est un peu différent, mais il y a toute cette notion dans la culture de l'Écriture de la paix qui vient du fait d'être entier. La paix qui est liée à la prospérité ou à la félicité. Alors je sais que c'est des termes qu'on n'utilise pas forcément tous les jours, et des fois, c'est la félicité, c'est quand on sera dans le ciel devant Dieu et que ce sera extra, mais l'Écriture dit la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. La sécurité de Dieu, la prospérité de Dieu, la félicité de Dieu vous gardera. À quelles conditions ? Que vous ne vous inquiétez de rien, que vous lui fassiez connaître vos besoins et que vous soyez reconnaissant. La reconnaissance vous ancre dans ce que vous avez déjà et dans ce que Dieu a déjà fait pour vous. Lorsque je suis reconnaissant, en fait, je m'exerce à voir ce que j'ai. Parce que souvent, l'inquiétude, le souci, le stress vient du fait que je pense ne pas avoir ce qu'il faut. Vient du fait que je me sens démuni ou insuffisamment équipé. Ou vient du fait que je me sens justement dans l'insécurité, dans l'incertitude. Donc si je m'habitue à être reconnaissant, en fait, mes yeux sont sur ce que j'ai. Et sur ce que Dieu m'a donné. Et sur ce qu'il fait et ce qu'il a fait pour moi. Et nous savons qu'il est fidèle, que nous pouvons compter sur lui. Donc non seulement la reconnaissance est quelque chose, bien sûr, qui est agréable à Dieu. Dieu aime quand son peuple lui est reconnaissant, quand nous lui disons merci, quand nous l'élevons pour ce qu'il fait dans nos vies. Mais la reconnaissance nous est profondément salutaire. Lorsque je suis reconnaissant, j'ai mes regards, comme j'ai dit, je vois ce que j'ai, ce qu'il a déjà fait pour moi. La reconnaissance m'est utile et même nécessaire pour me rappeler qui je suis, ce que j'ai déjà vécu, ce par quoi peut-être j'ai déjà traversé, ce qui s'est déjà présenté dans ma vie et que j'ai déjà surmonté. Et alors je peux fixer ma confiance et mon regard sur lui, parce que je sais qu'il ne m'a pas lâché la dernière fois. Parce que je sais que là où je pensais être faible, en fait j'avais ce qu'il fallait, parce qu'il a pourvu. Rappelez-vous un autre de nos messages, vous êtes comblé, pourvu, et vous pouvez être confiant si vous marchez avec Dieu, parce qu'il est tout en tous, il vous donne tout. Nous avons parlé justement de réorienter notre foi. La reconnaissance est une belle manière de le faire. Parce que je vois ce qu'il a fait, ce que j'ai, ce que je suis, et surtout celui qu'il est pour moi. Donc de façon très concrète et pratique, la reconnaissance peut s'exprimer en pensant, en vous rappelant et en témoignant de ce que Dieu a déjà fait pour vous. Lorsque vous êtes dans une situation qui peut être difficile ou qui pourrait générer la peur, l'inquiétude, le stress, rappelez-vous et témoignez. Et peut-être si vous avez personne à qui en parler, témoignez-vous à vous-même. Parlez-vous à vous-même, dites-vous, non, Dieu est fidèle, il ne m'a pas laissé la dernière fois, c'est vrai, j'avais peur, j'étais plein de j'étais même tremblant, mais j'ai réussi. La dernière fois, j'étais vraiment pas sûr de moi, mais je suis passé la main haute. La dernière fois, je ne savais pas comment ça allait se terminer, et puis de nulle part, la solution est venue. Dieu est fidèle, rappelez-vous, témoignez, parlez-vous à vous-même, louez Dieu pour ses merveilles. La louange, une si belle manière d'être reconnaissant. Je chante ses louanges, je proclame, je confesse sa grandeur, sa puissance, son autorité au-dessus de tout. Ce dont il m'a délivré. Vous savez, vous pouvez faire des louanges à travers les chants que vous pouvez chanter, à travers les CD que vous pouvez écouter qui sont très bons, à travers même des choses que nous pouvons partager ensemble quand nous vivons en communauté. Mais je voudrais vous encourager très pratiquement et concrètement à chanter votre chant. Chantez-vous votre chant. Si l'inquiétude vient, si la peur vient, si l'insécurité vient, soyez confiants, ne vous inquiétez pas, soyez reconnaissants et chantez votre chant. Si nous lisons le livre des psaumes, la plupart du temps ce sont des chants. Un chant de David qui revient de la guerre et qui chante « Éternel, je te loue, mes ennemis m'entouraient ». Vous savez, nous c'est des images pour nous, mais lui c'est son chant, il était au milieu. Et il y avait des ennemis qui rôdaient, il y avait des lions, il y avait des bêtes féroces prêtes à le dévorer. Mais tu étais avec moi, Éternel. Et quand il nous donne ce chant, ce témoignage, alors que tu m'as délivré de la patte de l'ours et des bêtes féroces, David, c'était son chant. Il avait eu à se battre avec un ours pour protéger son troupeau. Chantez votre chant. Élevez ce que Dieu a accompli pour nous. Et permettez-moi d'aller un peu plus loin en disant non seulement célébrez Dieu, c'est un ordre, louez-le. Honorez-le, élevez-le. Et si Dieu nous demande de le faire, ce n'est pas qu'il ait un problème d'ego. Il n'a pas besoin qu'on lui dise sans arrêt qu'il est fort et qu'il est bon, il le sait. Mais nous avons besoin de lui dire qu'il est fort et qu'il est bon parce que nous avons besoin d'en prendre conscience, de le reconnaître et du coup de nous positionner volontairement sous sa force, sous sa puissance. Quand je dis « Éternel, tu es fort, tu es puissant », bien sûr je fais sa joie. Mais sa plus grande joie ne vient pas que du fait qu'il entende des paroles agréables, mais vient du fait qu'il va pouvoir manifester force et puissance à mon égard. Quand je dis « Éternel, tu es celui qui ne manque jamais et tu pourvois à tous les besoins, tu n'as jamais laissé ton peuple. Et même dans le désert, tu as fourni la manne. Combien plus que la manne, Ève, dans ma nouvelle alliance avec toi, dans mon héritage. » Seigneur ce riche, se dit « Waouh, je vais pouvoir déverser dans sa vie. » Donc, c'est une chose, mais permettez-moi, comme je disais, d'aller un tout petit peu plus loin, de dire « Oui, célébrez Dieu, mais célébrez-vous. Célébrez-vous vous-même. Célébrez vos réussites. Célébrez vos victoires, célébrez vos forces, dites du bien sur vous-même. Soyez reconnaissants. Vous savez que la source, c'est Dieu. Et j'ai bien mis ça en premier, donc suivez-moi très bien. Mais célébrez-vous vous-même. Vous savez, si vous êtes constamment à ne pas être reconnaissant, même par rapport à ce que vous êtes et ce que vous avez, vous serez sans arrêt dans l'inquiétude et dans l'incertitude et vous serez toujours mal à l'aise. Si vous ne commencez pas à vous célébrer vous-même, vous n'aurez jamais confiance en vous. Jamais, c'est juste pas possible. La confiance doit se bâtir. Et oui, nous avons avant tout confiance en Dieu, Mais si nous avons confiance en Dieu, ça doit nous amener à avoir confiance en nous-mêmes, en ce qu'il fait en nous, en ce qu'il a mis en nous. Donc, célébrez Dieu et célébrez-vous. Célébrez vos forces, vos victoires, dites du bien sur vous et vos capacités. Et si vous n'en voyez pas, appelez-les. Si vous ne voyez pas vos capacités, appelez. Dites, je suis fort et je proclame la force de Dieu sur moi. Louez l'Éternel, tu es grand, tu es tout puissant, tu es au-dessus de tout. Rien ne peut se comparer à toi. Et venez aussi dites, je suis fort, je suis capable, je suis équipé. Ça vous fait prendre de l'assurance, ça vous permet de surmonter l'inquiétude. Soyez reconnaissant. Reconnaissant pour ce que vous avez déjà vécu. Ne gardez pas constamment les yeux sur la difficulté qui est là et le sentiment présent peut-être de manque et de faiblesse. Mais commencez à vous célébrer. Non, la dernière fois aussi, j'étais pas sûr, mais j'y suis arrivé. Non, quand je ne connais pas une chose, je travaille dessus et tôt ou tard j'y arrive. Même si en cours de route je suis tombé 2-3 fois, même si en cours de route ça a été difficile, mais je sais que je peux le faire. Célébrez Dieu, célébrez-vous. La reconnaissance vous ancre dans ce que vous avez, dans ce que Dieu a fait pour vous. Donc, cette première piste, cette première exhortation, pour être libre de l'inquiétude, de la crainte, des soucis et du stress, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de qui est Dieu, de ce qu'il a fait pour vous, la reconnaissance de ce que vous êtes et de ce que vous avez déjà pu accomplir, qui amène votre regard à se détourner des limites, des blocages, de l'impossibilité, et à regarder à ce qui existe, à ce qui est possible et à ce que vous pouvez accomplir. Donc très concrètement, faites-le. Célébrez Dieu. Si vous avez une situation d'inquiétude, de souci ou de stress, commencez à vous rappeler ce que Dieu a fait pour vous et à le célébrer, à l'élever, à l'honorer. Et puis, rappelez-vous de ce que vous avez réussi à faire dans votre vie et à vous célébrer vous-même. Deuxième piste, deuxième point, se décharger. Se décharger. Alors, premièrement, j'ai parlé de reconnaissance. C'est une des instructions qui vous aide et qui vous fait vivre libre de l'inquiétude, de la peur, du stress. La deuxième chose, c'est d'apprendre à se décharger. Se décharger. 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, 7. Il est écrit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous. Déchargez-vous. Donc, il y a une action. On se décharge. Et ici, « Déchargez-vous de tous vos soucis », ça veut dire « placer sur » ou bien « jeter ». Donc, concrètement, il est dit ici « Placez vos soucis sur ». Alors, si on veut reformuler une phrase, on peut dire « Placez vos soucis sur Dieu parce que lui-même prend soin de vous ». Autrement dit, vous n'avez pas à les porter. Vous êtes appelé à vous décharger, à les mettre sur lui. Et plus que ça, il est une question, une notion de jeter. Qu'on peut dire « Jetez vos soucis car il prend soin de vous ». Et ce qui est merveilleux, c'est, vous pouvez dire « Comment je vais prendre mes soucis et les mettre sur le Seigneur ?» Ce n'est pas à moi de mettre un fardeau sur lui. Le plus important, c'est que nous déchargions. Et en fait, quand vous les mettez sur lui, ce que l'Écriture nous exhorte à faire, c'est à nous rappeler qu'il a déjà tout porté. C'est à nous souvenir que Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme et que l'Écriture nous dit qu'il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos iniquités, nos infirmités, nos incapacités. Et on pourrait augmenter la liste, la malédiction, le fruit du péché et de la mort. Il s'en est chargé. Et l'Écriture nous dit qu'il s'est sacrifié une fois pour toutes, qu'il est mort et que toutes ces choses-là sont mortes à la croix parce qu'il les a clouées en s'étant identifié à nous. Et ensuite, il est ressuscité et il nous a rendus totalement libres. Donc quand l'Écriture nous dit « Déchargez-vous » ou bien « Posez sur lui vos soucis », c'est en fait par la foi, rappelez-vous qu'il les a déjà portés. Et quand Jésus a porté à la croix en mourant pour nous, puis en ressuscitant, il a porté tous les péchés, tous les fardeaux, toutes les maladies. Il n'a pas porté que ce qui s'était passé avant l'œuvre de la croix. Sinon, nous serions bien malheureux d'exister aujourd'hui alors que Jésus a déjà fait tout ce qu'il avait à faire. Mais en fait, l'Écriture dit qu'il l'a fait une fois pour toutes. Ce qui veut dire que même la douleur, la difficulté que je rencontre aujourd'hui, en 2015 après Jésus-Christ, il l'a déjà portée à la croix. Comment c'est possible? Ce n'est possible qu'à la condition que je pose sur lui ce que je vis maintenant. par la foi. De la même façon que le pécheur repentant vient devant lui et dit « Éternel, je reconnais mon état de péché, je crois que tu es mort et ressuscité, et maintenant je suis un enfant de Dieu. » De la même façon qu'il naît de nouveau, qu'il est purifié, de la même façon, quand nous rencontrons une difficulté, une douleur, une incapacité, quelque chose qui pèse sur nous, eh bien, nous pouvons le poser sur nous en disant « Tu l'as déjà porté à la croix, Seigneur. » C'est vrai, c'est aujourd'hui, bien plus tard, que j'en ai besoin. Mais je sais que même ce qui est maintenant, toi tu l'as déjà porté, parce que tu l'as fait une fois pour toutes. Et s'il l'a fait, s'il vous plaît, ne le portez plus vous-même. Déchargez-vous. Il l'a déjà porté, ça a déjà été réglé par la croix. Donc mon apport ici, mon implication voilà, très concrète de ce point, se décharger, eh bien c'est littéralement déchargez-vous. Vous pouvez trouver votre manière qui vous soit personnelle, qui vous aide, mais je voulais peut-être déjà partager ici, moi j'ai une certaine habitude qui m'aide quand j'en ai besoin, c'est de saisir un objet, quelque chose, et d'identifier mon souci ou mon fardeau, ma douleur présente à cet objet, et de pratiquer cette parole qui dit « lancez vos fardeaux, déchargez-vous de vos soucis ». Et je dis « Seigneur, mon souci là maintenant, je le lance, je m'en débarrasse ». Et vous pouvez autrement faire comme si vous détachiez, vous enleviez un poids de vos épaules ou un sac et vous faites le geste clairement et vous en déchargez. Et pourquoi pas vous dire, Seigneur, je place sur toi maintenant ce fardeau. Mais posez un acte, faites un geste, faites-le concrètement. Vous allez voir comment ça vous amène à réellement avoir cette position de foi et vous vivez libre de l'inquiétude. Libre des soucis, libre du stress, parce que ce n'est plus vous qui le portez. Et vous savez maintenant que vous avez placé sur lui votre stress, parce que l'Écriture dit, lui-même prend soin de vous. Donc, puisque tu prends soin de moi, Seigneur, maintenant, je place tout ça sur toi. Je ne m'en occupe plus, tu t'en occupes. Tu t'en es occupé à la croix, et je sais que le résultat de l'œuvre de la croix maintenant va se manifester pour moi, alors que j'associe foi à ce que tu as fait. Donc, faites quelque chose de concret. Faites un geste, comme d'enlever un sac, comme d'enlever un poids, et lancez ça au loin. Jetez littéralement vos soucis. Débarrassez-vous-en. Pardon. Se décharger est une des instructions qui nous aide et qui nous amène à vivre libre de l'inquiétude, du stress, des soucis. Premièrement, soyez reconnaissant. Deuxièmement, déchargez-vous, lancez. Déposez vos soucis, vos fardeaux. Et troisièmement, anticipez ou envisagez une issue favorable. Anticipez ou envisagez une issue favorable. Je vous avais dit que ce serait très simple. C'est tellement simple que je ne veux pas que nous passions à côté. Et j'y associe des choses pratiques. Parce que si souvent nous savons très bien, oui, Dieu m'a dit de ne pas m'inquiéter. Seigneur, voilà, je te fais confiance, hein, mais je stresse quand même. Et si je ne fais rien de concret, ça continue. Et moi-même, j'ai vécu ça beaucoup. Il m'arrive d'être atteint. La vie est faite comme ça. Les inquiétudes viennent, le stress vient, les imprévus arrivent. Mais l'Écriture dit, ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire, positionnez-vous, faites quelque chose. Et comment nous pouvons faire concrètement ? La reconnaissance. Se décharger. Vous attrapez quelque chose et vous le balancez. Dites, non, je jette ça, j'en veux pas. Et anticiper une issue favorable. Matthieu 6, 34. Je l'avais donné dans la définition de la peur. Il était dit que la peur est une émotion qui se base soit sur des faits réels, soit imaginaires. Et pourquoi imaginaire ? Parce que souvent, une situation qui arrive maintenant nous fait nous faire un film, disons-le carrément, dans notre tête, de ce que ça pourrait produire. Et très souvent, le film qui arrive, c'est le scénario catastrophe. Forcément, ça va mal finir. Forcément, ça va finir comme si. Forcément, il va m'arriver si, ça ou ça. Mais l'Écriture nous invite et nous engage à anticiper plutôt, à envisager plutôt une issue favorable. Matthieu 6, 34, Jésus dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11, il écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc si Dieu a formé sur nous projet de paix, non de malheur, pour un avenir et de l'espérance, nous ne pouvons pas, juste logiquement, envisager une issue terrible et destructrice, puisque Dieu dit qu'il y a un avenir et une espérance, qu'il y a un projet de paix, encore cette paix qui revient, cette paix, sécurité, sûreté, protection, cette paix, prospérité, cette paix, félicité, cette paix, tranquillité, grâce, joie, abondance, et on pourrait ajouter certainement d'autres termes, mais projet de paix, non de malheur, un avenir, une espérance. 1 Corinthiens 10, verset 13. Il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Ici, la question de la tentation, alors ça peut ouvrir des bancs en disant comment ça, tentation, est-ce que Dieu nous tente, etc. En fait, le terme ici qui a été rendu par tentation, ça veut dire tenter, éprouver, évaluer ou certifier. Et il y a des périodes de notre vie où peut-être les circonstances peuvent nous mettre au défi, c'est vrai. Peut-être même l'ennemi peut-il nous mettre au défi, c'est vrai aussi. Mais Dieu fait en sorte que toutes sortes de tentations qui se présentent se changent en fait en une évaluation, en une certification. Il dit, ça va être l'occasion d'évaluer, de voir est-ce que où tu en es, jusqu'où tu vas avec moi. Est-ce que dans ce qu'on a appris récemment, parce que souvent Dieu le fait par rapport à ce qu'il nous a appris récemment, ou par rapport à un échec passé, peut-être la dernière fois, j'ai défailli dans la foi, j'ai perdu ma confiance. Et il m'a quand même secouru parce qu'il m'aime. Et aujourd'hui, une situation se présente et Dieu ne voit pas ça comme pour me tenter ou pour me mettre quelque chose qui doit me faire tomber. Mais au contraire, il veut m'évaluer, il veut certifier quelque chose. Il veut certifier, oui, ta foi a grandi, ta foi est plus forte. Il veut certifier, oui, tu me fais confiance. Il veut certifier, oui, tu es prêt à plus parce que tu as obéi à ce que je t'ai demandé jusqu'à présent. Et quand Dieu veut certifier, certes, il veut certifier pour lui-même, pour être bien sûr, mais Dieu connaît déjà tout. En réalité, ce que Dieu fait, c'est qu'il veut certifier aux yeux de tous, vous-même, et aux yeux des dominations, aux yeux de votre ennemi, il veut pouvoir délivrer un certificat valable en bonne et due forme. Mon enfant est ferme dans la foi. Donc quand l'épreuve ou la tentation vient, ne voyez pas ça comme en disant « Mais Seigneur, tu m'as laissé passer par ça ». Non, au contraire, même réjouissez-vous et voyez ça comme une certification. Dites-vous « Je vais sortir de là avec le tampon validé, certifié, je suis fils de Dieu, je suis plein d'assurance, avec une certification fidèle dans l'obéissance, avec une certification homme de foi, avec une certification femme vertueuse, avec une certification fidèle dans les finances, avec une certification prête pour le mariage, avec une certification de ce qui vient, qui va donner le droit légal, qui va donner l'autorisation absolue à Dieu le Père, Maître de l'univers, de libérer ce qu'il veut te donner. Même le modèle de ce monde nous fait voir que nous devons avoir certaines certifications pour accéder à certaines positions. Et certains ici sont bien placés pour connaître tout ce que peut représenter un simple concours, mais ô combien incontournable, et qui vous permet d'accéder quelque part. Et Dieu a besoin de certifier d'un certain nombre de choses pour nous amener où il veut nous amener. Mais l'Écriture nous dit très bien qu'il prépare le moyen d'en sortir, et que rien n'est au-dessus de vos forces. Donc quand nous sommes dans une difficulté, quelle qu'elle soit, et peu importe d'où ça vient, que ce soit une tentative de l'ennemi de nous dérouter, vous savez quoi? Dieu fait tout tourner à son avantage et à votre avantage. L'Écriture déclare que nous savons du reste, Romains 8, 28, que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ce qui veut dire que même si c'est l'ennemi qui envoie quelque chose contre toi, Dieu va s'arranger pour faire travailler ça à ton bien. Et la pierre qui aurait dû te faire chuter, Dieu en fait un tremplin qui va te faire rebondir et gagner du terrain. La tentation, la situation que peut-être aurait pu te faire tomber ou te détruire ou t'éloigner de lui, Dieu va faire en sorte que ça devienne un test, une certification qui va démontrer combien tu es attaché à lui. parce qu'il a préparé le moyen d'en sortir. Donc si c'est lui qui a mis sur le chemin une période de test ou d'épreuve comme en fin de trimestre, c'est que vous êtes capable de la réussir. Et même quand ce n'est pas lui, Dieu transforme ça en une occasion de dire « Ah, vous avez voulu jouer à ça ? Eh bien, vous allez voir. » Et maintenant, à cause de ça, ceux qui auraient dû vous ralentir, ou ceux qui même vous auraient laissé juste dans la marche normale pour l'instant, Dieu va utiliser ça comme un accélérateur et vous propulser plus loin. En disant, ah, vous avez voulu lui mettre des bâtons dans les roues, eh bien moi, l'Éternel des armées, j'en profite pour certifier qu'il tient debout et qu'il va plus loin. Alléluia, merci Seigneur. Hey, anticipez une issue favorable, s'il vous plaît. Il y a une difficulté qui vient, ne vous laissez pas prendre à la première impression et à vous dire « Ah, mais là, ça va être trop fort, là, je crois que bon, on va arrêter ça. » Ou là, non, forcément, quelqu'un d'autre va passer avant moi, là, c'est... Pff. Tout ça, c'est ce qui vient naturellement, parce que la nature de ce monde, et il y a encore quelque part ce qu'on appelle la chair, qui est encore rebelle à Dieu et qui est influencée par les informations purement terrestres. Mais il y a quelque part ce qu'on appelle votre esprit, qui est la nature divine, où le Saint-Esprit rend témoignage que vous êtes fils et filles de Dieu, et que vous êtes plus, et que vous êtes céleste, et que vous n'avez pas juste à suivre le train de ce monde, mais que vous pouvez et vous devez vous positionner, ne vous inquiétez de rien, mais anticipez une issue favorable, parce que c'est ce que vous allez créer. Rien n'est au-dessus de vos forces. Dieu ne permettra que rien ne dépasse vos forces, mais il prépare le moyen de sortir à chaque fois. Jacques, dans son épître, parle de la langue comme d'un gouvernail. Le gouvernail donne la direction. Qu'est-ce que la langue vient faire là? Eh bien, parler. Le bon langage. Et il parle de ça en opposition à celui qui doute. Et il dit que celui qui doute ne s'imagine même pas recevoir quelque chose. Il est juste ballottant, il se laisse emporter par les flots. Et c'est ce qui se passe. Lorsque les circonstances se présentent, quelqu'un peut rapidement perdre ses repères et être emporté par les flots. À dire aujourd'hui ça va parce que les circonstances vont à peu près, mais demain ça ne va pas parce que les circonstances disent le contraire. Mais vous êtes de nature céleste. Vous pouvez et vous devez, carrément, disons-le, parce que l'inquiétude va vous détruire et va rendre nulle la parole de Dieu. Si vous voulez voir la parole de Dieu s'accomplir dans votre vie, ne vous inquiétez de rien. Soyez reconnaissants. Déchargez-vous et anticipez une suite favorable. Anticipez, envisagez, et j'allais dire seulement, l'issue favorable. Ne laissez même pas de place à l'échec, ce n'est même pas une option. C'est ça marche ou ça marche. Je réussis ou je réussis. Ce n'est pas si éventuellement j'ai réussi, c'est quand j'aurai réussi. Et même si ce n'est pas tout de suite, il n'y a pas d'autre option, je réussis. Je suis pourvu. Et même si les jours passent et que je n'ai pas encore de quoi régler ce que je devais régler, mais je suis pourvu ou je suis pourvu. Parce que rien n'est permis par Dieu qui soit au-dessus de mes forces. Rien. Donc je peux arriver jusqu'au bout. Et derrière vient la récompense. Alléluia. Et même si la fin aurait pu, et même si la fin aurait dû être mauvaise, si vous anticipez une issue favorable, c'est ce que vous verrez. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui accomplissent des choses et ceux qui n'en accomplissent pas. Si vous observez très bien, très peu de choses typiquement humaines ou personnelles différencient les gens qui accomplissent de ceux qui n'accomplissent pas. Très, très peu. Très peu. Sur un plan purement en physique, c'est toujours compliqué à se comparer les uns les autres, même parfois sur un plan intellectuel ou sur un plan d'où nous venons, d'où nous partons. Très peu de choses différencient ceux qui réussissent et accomplissent de ceux qui ne le font pas. Mais l'une des choses principales qui les différencie, c'est leur détermination à aller quelque part et leur capacité à anticiper une issue, à envisager une issue favorable et rien qu'une issue favorable. Ce qui différencie quelqu'un qui accomplit de quelqu'un qui n'accomplit pas, c'est son, si j'ose dire, son positivisme. Quelqu'un de positif peut avoir moins que quelqu'un de négatif et accomplir beaucoup plus. Parce qu'il y croit, parce que c'est ce qu'il voit venir, parce que c'est ce qu'il vise, c'est ce vers quoi il va. Donc très concrètement, par rapport à ce point d'anticiper ou d'envisager une suite favorable, eh bien c'est à vous de devenir le metteur en scène de votre vie. C'est à vous de devenir le metteur en scène de l'issue de la situation que vous traversez. Quelqu'un est l'auteur du film. Je ne vous demande pas d'être l'auteur du film, je vous demande de le mettre en scène. C'est-à-dire que quelqu'un a écrit ce qu'il doit en être, et il vous a donné le script, et il vous dit « mets-moi ça en scène ». Alors s'il vous plaît, lisez ce qui est marqué dans le script divin. Lisez ce qu'il nous a laissé dans sa parole. Lisez et entendez ce que le Saint-Esprit, le représentant de l'auteur qui tient à ce que le film se déroule comme il doit se dérouler, vous dit dans votre cœur en disant « Attends, regarde, là, fais comme ça, là, va par là. » Mais c'est vous le metteur en scène. C'est-à-dire que c'est vous qui vous positionnez, c'est vous qui mettez certaines choses en œuvre, et pourquoi pas, comme un metteur en scène qui donne des instructions autour de lui, c'est vous qui parlez, comme cette langue qui est un gouvernail qui donne l'issue. Donc, définissez ou plus précisément, appliquez le scénario approprié de la suite de votre vie. Et c'est juste qu'aujourd'hui, quelqu'un a l'impression d'avoir vécu d'échec en échec ou d'avoir une vie qui a eu pas mal de scènes un peu ratées. Eh bien, réappropriez-vous le film, le script. Revenez près de l'auteur. Soyez à ses pieds, écoutez-le, entendez-le parler de votre vie, entendez-le parler de ce qu'il veut pour vous, entendez-le parler de ce qu'il a accompli et de ce qu'il veut voir accompli dans votre vie. Et maintenant, mettez-le en scène, vivez-le, expérimentez-le. Pensez, visualisez, parlez positivement de ce qui doit venir. S'il vous plaît, ne campez pas là où vous êtes, mais portez-vous dans la bonne direction. Portez-vous vers l'issue favorable. Quelqu'un me dira, oui, mais forcément, à chaque fois que je me suis trouvé dans la même situation, eh bien, ça s'est terminé comme ça. Donc, le film, il est écrit, c'est comme ça. Oui, mais ça, c'est ce que dit ta vie, c'est ce que disent les choses terrestres. Mais que dit le script original, version originale? Peut-être une petite erreur de traduction ou d'interprétation ou une adaptation. Vous savez, il y a quelqu'un qui aime faire des adaptations. Et finalement, ce qui devait être un film magnifique et glorieux ne devient qu'une parodie pâle et sans goût, permettez-moi d'utiliser le terme de navet. Et ce quelqu'un s'est présenté dès le tout début de notre humanité en prenant la forme d'un serpent. Et en disant, mais t'es sûr que dans le script, c'est vraiment marqué qu'il faut pas manger de ce fruit-là? Il a vraiment dit ça? Non, mais tu sais, tu peux y aller, parce qu'en fait, il a peur que tu sois comme lui, et si tu manges du fruit, tu vas voir, ça va être top, tu vas devenir comme Dieu. L'ennemi, pour sa tentation, n'a pas inventé grand-chose, il s'est basé sur l'histoire originale, mais il l'a perverti, il l'a détourné. Et il fait ça constamment dans notre vie. Alors que nous traversons des circonstances, peut-être des difficultés, et puis on se dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et combien de destinées ont été gaspillées, ou en tout cas, combien de destinées font des détours inutiles, même au moment où nous parlons, à cause d'une erreur de fidélité au script, qui peut parfois coûter des années, et tellement plus, tellement plus. Mais revenez au script. Mettez-vous au pied du Seigneur, entendez ce qu'il dit. Et n'acceptez d'autre issue que celle qui est prévue par le Créateur de l'univers, par votre Père, qui dit « J'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. » Qui dit « J'ai pour toi un avenir et de l'espérance. » Qui dit que tu réussiras ce que tu entreprendras si tu médites ma parole, que tu pratiques ces instructions. Et tant d'autres choses. Et donc même si votre vie vous a raconté, ou vos expériences, ou les choses de la terre vous ont écrit un script différent, peut-être même, pour certains d'entre nous, nos parents ont-ils écrit un script différent de nos vies, en disant, toi tu ne feras jamais rien, tu n'accompliras rien, tu n'arriveras nulle part. Peut-être si la société a écrit un script pour votre vie. C'est à vous qu'il appartient de choisir. Lequel vous allez réellement mettre en scène. Lequel vous allez accepter, penser, croire, visualiser et appliquer. Appliquer la parole de Dieu. Envisager, j'ai envie de dire envisager à tout prix et uniquement une issue favorable. quoi qu'il arrive, l'issue doit être favorable. Et quand bien même elle ne serait pas ce que j'ai pensé qu'elle serait, quand même elle doit être favorable. Il peut arriver que mon issue favorable ait un certain sens pour moi. Je me dis, l'issue favorable, ce sera telle chose. Et puis la chose n'arrive pas. Mais quand bien même la chose n'est pas, là encore, il y a, c'est que soit Dieu veut m'enseigner quelque chose, soit il a quelque chose d'encore plus grand, soit c'est forcément... Quand vous arrivez là, ne vous dites pas, bah non, c'est vrai, Dieu m'a promis de réussir, et puis ça n'a pas marché cette fois-ci, et on s'arrête, bah, ça n'a pas marché, point. Non, il doit y avoir une issue favorable. Donc même si la première réponse est défavorable, je dis, il doit y avoir une issue favorable. Et je reste à l'écoute, et je reviens encore en disant, Saint-Esprit, s'il te plaît, témoigne encore. Dirige-moi. L'Écriture dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu pour que j'aille dans la bonne direction, que je mette en scène correctement les choses pour que cette issue favorable soit manifeste, soit évidente. Et par rapport à ça, je voudrais vous donner deux petites aides concrètes, à vous de voir comment ça peut vous aider. Mais l'une des choses qui m'a aidé, qui m'aide parfois, c'est ce que j'ai appelé le switch, c'est-à-dire on change quelque chose. Le switch, ça consiste à, par rapport à peut-être une situation donnée. Moi, j'ai un moment eu beaucoup à travailler ou à, comme défi, une certaine timidité qui est de moins en moins évidente, en tout cas par rapport à ce à quoi je suis appelé. Et quelquefois, rien que le fait d'imaginer d'être face à quelqu'un et de dire certaines choses, je commençais déjà à en trembler ou à en rougir ou à être mal à l'aise. Et ce qui revenait souvent, c'était les fois justement où j'étais face à quelqu'un ou dans une situation et où j'avais un peu la gorge serrée et je transpirais et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et ça, c'était le scénario que je connaissais, qui était une réalité pour moi. Mais à un moment, j'ai dû commencer à changer ça, et à faire un switch et à commencer à regarder autre chose que ça. Et donc, une manière intéressante de le faire, c'est pas simplement par rapport à par exemple, une situation comme celle-là où fermez vos yeux, vous positionnez, puis vous voyez cette situation, c'est facile en général de la voir sous vos yeux parce que ça vous marque suffisamment. Et c'est ce que vous ne voulez pas. Donc ce que vous pouvez faire après en parallèle, c'est commencer à faire de la place sur votre écran interne là, et à commencer à jouer la situation telle qu'elle devrait être. Donc vous commencez à vous voir plein d'assurance, à l'aise, en train de parler posément, distinctement et d'être dans la position juste où vous devez être, complètement à l'aise. Et maintenant, progressivement, vous focalisez sur ce que vous devez être et sur ce qui doit être et sur ce qui est le script. Jusqu'à ce que de plus en plus, l'image ancienne perde de sa valeur et devienne de plus en plus petite. Maintenant, moi, j'ai une manière, mais elle est vraiment propre à moi, mais chacun fait, un peu plus violente, c'était de... carrément en impliquant, moi je vous expliquerai peut-être ça une autre fois, mais souvent j'aime impliquer mon corps dans les choses, il me semble que nous sommes esprit, âme et corps et que tout notre être a besoin d'être racheté. Notre esprit, lui, c'est totalement fait à nouvelle naissance, merci Seigneur. Notre âme, nous devons renouveler l'intelligence, nous devons appliquer la parole, la méditer jour et nuit pour que nos émotions, notre être intérieur, notre intelligence soient marquées de cette parole, ça c'est un travail. Et notre corps aussi doit faire partie de tout ça. Et on le voit par exemple à travers le baptême d'eau. Pourquoi est-ce qu'on plonge le corps dans l'eau? Il n'a rien à voir après tout avec ça. Ça n'est qu'une tente, c'est que temporaire. Mais pour que notre être entier puisse être aligné sur la vérité et être vraiment dans cette démarche de ce que dit la parole de Dieu. Et par rapport à ces choses-là aussi. Et donc, moi, d'une des manières dont je fais ça, parce que là je vais donner la méthode douce, je vois la situation telle qu'elle est, dont je ne veux plus. Et ensuite, sur mon écran interne, je vois ce que ça devrait être. Et je saisis comme cette photo des deux bras, et comme si j'avais un élastique, je les tire, les tire, les tire, les tire, les tire. Et puis à un moment donné, je lâche, paf, et cette image qui doit être vient fracasser ce qui ne doit plus être. Et comme quelquefois dans certains combats, il faut plusieurs coups de bélier pour éclater une porte ou une barrière, eh bien peut-être le faire plusieurs fois, mais d'une manière percutante, je viens me percuter ma conscience et mon être de ce qui doit être. Bam, pour avoir comme ce flash de ce que je suis vraiment, de ce qui est la vraie histoire et qui vient frapper, effacer ce que je vis pour l'instant, mais qui n'est pas mon histoire, qui ne m'appartient pas, qui n'est pas moi, qui n'est pas le script. Ça va? Donc un exercice auquel vous pourrez vous essayer et qui pourra peut-être vous aider. Et Une autre chose, je vous l'ai déjà livré parce que ça, c'est quelque chose qui est facile, enfin facile, qui se met en œuvre et que j'aime associer à une démarche de foi. C'est mon fameux « faites comme si ». Vous faites semblant. Faites comme si ça allait. Vous savez, quand vous êtes vraiment mal à l'aise, vous commencez à transpirer, à pas être bien, faites comme si ça allait. C'est-à-dire, oui, c'est facile à dire, mais vous allez voir, c'est, en fait, c'est même pas si difficile à faire. Ça va même être assez amusant. Faites comme si ça allait. Bon, je dis toujours d'être très authentique et honnête dans cette démarche. Je ne vous dis pas de faire comme si vous aviez les diplômes que vous n'avez pas pour obtenir un poste auquel vous n'êtes pas censé postuler, d'accord ? Ça, c'est pas ça non plus. Ne faites pas non plus comme si vous aviez des ressources illimitées pour aller acheter ou dépenser des choses que vous ne pourrez pas payer. D'accord ? C'est quand même toujours mieux de le dire, hein, comme ça, que les choses soient claires entre nous. Mais essentiellement, par rapport à nos comportements, à notre être, à notre positionnement, etc., moi, ça m'a beaucoup aidé de faire comme si. Et jusqu'à maintenant, j'avoue qu'il y a des moments où ça m'aide, dans certains contextes. Faites comme si vous étiez à l'aise. Alors que normalement vous n'y seriez pas. Faites comme si. Peut-être là vous regardez les gens droit en face, vous serrez les mains. Intérieurement peut-être vous tremblez, mais faites comme si ça allait. Vous faites des sourires, comme si tout allait bien. Et ce qui est extra avec ça, c'est qu'à un moment vous n'avez plus besoin de faire comme si. Et vous n'êtes même pas rendu compte et vous y êtes. Et je vous garantis que ça marche. Et ça n'est pas autre chose que la foi. Combien l'Écriture nous engage à ne pas regarder aux choses visibles, parce qu'elles sont passagères, mais aux invisibles qui sont éternelles. Votre être éternel, c'est votre esprit. Et votre esprit est habité de la nature divine, qui vous communique force, amour, sagesse, capacité. Alors que ce corps, qui vous communique peut-être parfois un petit peu de honte ou de mal-être par rapport à des apparences ou des choses, n'est que passager, lui, ça n'est qu'une tente, on s'en débarrassera. Ou pour nous qui serons enlevés, parce qu'on est de cette génération-là, il sera transformé en un corps glorieux. Donc c'est que passager. Donc moi, quand mon corps se met à transpirer ou à rougir, je dis, c'est quoi ça, c'est du passager. Je regarde les choses invisibles. Dans l'invisible, je suis plein d'assurance, je suis à l'image de mon maître. Et en faisant comme si j'étais à l'aise, mon corps finit par s'y mettre et être à l'aise. Et le coup d'après, je n'ai même plus besoin de commencer par faire comme si, j'y suis. Et j'y suis tellement que parfois je me suis rendu compte, ah, c'est moi ça. Et sur... Vraiment sur plusieurs choses. Mais vous savez, même simplement le matin, je ne sais pas, peut-être que j'ai encore bien plus d'imperfections que plusieurs d'entre vous, mais vous pouvez vous réveiller un petit peu d'une humeur, on va dire, pas des plus joviales et pas des plus agréables. Et peut-être les personnes qui sont autour de vous, les premières que vous allez rencontrer, ne sont pas particulièrement agréables non plus. Et vous sentez vite comment la tension est là et comment elle peut monter facilement. Mais même la fête comme si vous étiez de bonne humeur. Oui, c'est très bien. Et je vois que ça fait sourire mon épouse, elle sait de quoi je parle. Et ça m'arrive, mais il y a un moment où je dis, attends, est-ce que j'ai envie de perdre ma journée ? Non, parce qu'une journée, c'est trop. Mon temps a trop de valeur pour ça. J'ai trop de choses à accomplir. Et Dieu a trop de choses à accomplir à travers moi pour que je puisse perdre une journée à être désagréable, plus le temps qu'il faudra pour remettre peut-être les choses en place derrière. Et sans rentrer dans des choses trop personnelles ou quoi, mais même avec mon épouse, on a développé certaines habitudes, et je pense que chacun travaillait dessus, et voilà. Et en tout cas, les conflits deviennent de plus en plus rares, déjà d'une part, et en plus, à côté des histoires, de plus en plus courts. Enfin, vraiment, c'est hyper passager. Même si on n'est pas d'accord sur un truc, on ne passe plus comme il y a quelques... Hein, si on revenait même à il y a 10 ans, on pouvait passer plusieurs jours à faire sentir notre désaccord. Aujourd'hui, c'est une grâce quand même. Et je sais que je m'adresse à mon épouse pour ceux qui nous écoutent à distance ou qui nous regardent, mais je sais qu'elle y travaille parce qu'elle a son caractère. Avec toute la merveille qui peut y avoir dedans, mais avec d'autres choses qui sont un peu plus à l'état brut, dirons-nous. Mais bon, de mon côté, il faut encore plus chercher. Donc elle a vraiment du mérite parce qu'elle voit, avec un regard de foi. Et son regard de foi et son regard animé du regard de Dieu a su faire monter en moi le bon que je ne connaissais même pas moi-même. Et comme je l'ai dit à d'autres occasions, et c'est pas juste des jolis mots, c'est une réalité, elle participe à me rendre meilleur. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. Et il y a des moments où on fait... Il y a juste des moments où on fait comme si on n'était pas fâché. C'est pas qu'on va non plus passer à côté du problème, mais on va pouvoir en parler et le régler sans colère, énervement, qui nous aurait fait perdre tant de temps et tant d'énergie. Et parfois, voilà, je le fais comme si ça ne me faisait pas tant que ça. Et il y a des fois où il y a des choses qui m'affectent plus qu'il n'y paraît, mais je fais comme si, parce que je sais que c'est juste une affectation purement charnelle, parce que ça dérange mon petit orgueil. C'est pas une blessure profonde, c'est... Voilà. Et je sais que parfois aussi, Sophie certainement le pratique à force de me fréquenter, mais c'est bon, et ça consomme quelque part. Et la vie est tellement plus simple, est tellement plus agréable, tellement plus belle, et on peut tellement plus fixer notre énergie sur des choses qui comptent vraiment et qui construisent. Et quand je dis tout ça, c'est pas comme si on était mieux, mais c'est juste vous dire que si nous on y arrive, vous pouvez y arriver. on n'est pas plus, voilà. En tout cas, je ne suis pas plus prédisposé que quelqu'un d'autre. Et bien sûr qu'il y a tant de travail, mais vous savez, même par rapport à notre sujet, et j'en ai quasiment fini parce que je veux rester sur des choses simples et pratiques, mais l'inquiétude, les soucis et le stress, nous sommes trop habitués à vivre avec ça, comme si c'était juste tolérable, c'est pas si grave, tant que je vais pas dans la dépression, dans la peur. C'est vrai dans l'absolu, si vous arrivez encore à le maîtriser, mais vous ne devriez même pas tolérer ça, parce que Dieu dit « ne vous inquiétez de rien ». Et il nous dit bien que les inquiétudes et les soucis vont étouffer ma parole. Donc d'un côté, on veut que la parole de Dieu s'accomplisse, mais on tolère une inquiétude, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et pourtant, ça peut très simplement se régler, cette histoire d'inquiétude ou de peur. Je l'ai dit, on réoriente sa foi. La reconnaissance. Peut-être qu'on ne va pas tout de suite sauter et crier de joie, c'est vrai, mais juste forçons-nous quelques instants, quand ça peut être difficile, à quand même regarder, à reconnaître. Non, mais c'est vrai, Seigneur, quand même, je suis en vie. C'est vrai, Seigneur, tu as été avec moi. De dire, c'est vrai, après tout, je sais quand même faire telle ou telle chose. Et comme disait David, il disait, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Car je le louerai encore. Et vous recommencez à louer Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, nous ne faisons pas ici le... ne mettons pas la nature humaine sur un piédestal, loin de là, parce que l'homme... Et ce que l'Écriture dit, le vieil homme est absolument, permettez l'expression, dégoûtant, inutile et improductif. Mais ce que je mets en avant, c'est la nature divine qui fait d'un être qui peut être dégoûtant, improductif et inutile, un être tellement intéressant parce qu'il a changé de nature, parce qu'il est devenu une nouvelle création et parce que maintenant, en Christ, ses capacités, ses possibilités ont complètement changé. Et donc, quand je dis plus vous louez Dieu, et plus vous arrivez à vous louer vous-même. Et c'est intéressant, parce que parfois, on n'en a pas un autre message, et je n'étais pas allé jusque-là, mais parfois les gens qui ont un problème d'estime de soi, ça passe aussi par le niveau de notre estime de Dieu. Plus vous estimez, vous apprenez à connaître et à apprécier Dieu et ce qu'il fait, et étrangement, quelqu'un dirait que c'est contradictoire, mais comprenez très bien la portée spirituelle de ce que je dis, et plus vous arrivez à vous apprécier. Parce qu'en fait, vous appréciez ce que Dieu a mis en vous, vous appréciez la puissance de l'œuvre de Dieu. Et le juste témoignage simple de notre vie personnelle et de couple que je viens de vous donner, mais je suis moi-même en admiration, pas pour nous, mais pour cette œuvre que Dieu accomplit en nous et à travers nous. Enfin, c'est juste merveilleux, c'est grand. Et je dis, Éternel, tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Et je dis, je suis un époux de mieux en mieux, je m'améliore. Et je dis, notre couple devient de meilleur en meilleur, on voit le temps passer. Mais quand je dis ça, en fait, à travers ça, je loue l'œuvre de Christ et sa puissance rédemptrice qui fait que là où nous n'aurions peut-être pas été meilleurs que d'autres, ou là où le monde aujourd'hui nous dit qu'un couple, ça dure, allez, 3-4 ans et maximum 7, et à 7 ans, on divorce. Et 7, c'est déjà beaucoup, mais c'est des moyennes, parce qu'il y a ceux qui font 30 ans ensemble, nos parents encore, hein, ou nos grands-parents, mais c'est vrai que les générations qui viennent, les statistiques descendent très vite. Moi, je suis parfois impressionné, évidemment attristé, mais de voir que des gens, au bout de quelques semaines, déjà sont divorcés, déjà ont abandonné. Et Dieu est fidèle, et Dieu accomplit tant de choses. Donc la reconnaissance, et puis se décharger. Juste vous laissez les choses, vous les mettez sur lui, vous les rejetez. S'il faut le faire, je vais vous donner un exemple, vous balancez quelque chose, ça peut vous aider. Et puis surtout, envisagez une issue favorable. J'ai envie de dire rien qu'une issue favorable, pas d'autre option. Et je peux vous dire qu'en pratiquant ces choses-là, l'inquiétude va très rapidement perdre son emprise sur vous. Parce qu'une grande force de l'inquiétude, c'est de pouvoir s'ancrer et du coup de vous faire voir les choses en noir, en disant qu'on broie du noir, et de vous faire voir les choses terribles derrière. Alors que si vous arrêtez aux faits, les faits ne sont souvent pas si terribles que ça. Et ce qui va faire la différence entre l'issue, ce n'est pas seulement les faits eux-mêmes, mais c'est la façon dont je vais accueillir et intervenir devant les faits qui me sont présentés. Et ça vous appartient. Et Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Faites connaître vos besoins avec reconnaissance, déchargez-vous, car ne le porte pas toi-même. Vous savez, on est beaucoup plus efficace dans la réflexion, dans la marche, dans l'action, quand on n'est pas chargé. Si vous portez un poids de quelques kilos, vous vous fatiguez plus vite, vous êtes moins efficace, que ce soit dans l'action, que ce soit même dans la réflexion. Parce qu'à un moment, la fatigue physique pèse sur la capacité de réfléchir, etc. Et inversement, la fatigue mentale, à force de penser, de retourner le problème dans tous les sens, ça vous fatigue et ça vous fatigue même physiquement. Donc il dit, déchargez-vous, rejetez ces fardeaux-là, parce que sinon ça vous fatigue, ça vous ralentit, et comme dit l'Écriture, l'inquiétude abat un homme. Et ce n'est pas ce que nous avons à vivre. Donc on vire ça, et puis on va définir la suite en acceptant le script écrit par Dieu, une suite favorable. Rien qui soit au-dessus de mes forces, je vais tout surmonter. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je suis capable, je suis pourvu, et s'il faut, en passant par là, un petit peu de switch, un petit peu casser quelques images erronées. S'il faut, faites comme si, jusqu'à ce que vous y soyez complètement. Parce que la foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quand je fais comme si je démontre quelque chose, que je ne vois pas encore, mais que je crois et qui m'appartient par la foi. Donc décidez dès aujourd'hui d'être et de rester libre de toute inquiétude, du stress, des soucis. Soyez reconnaissants, louez Dieu pour ses bienfaits. Déchargez-vous, parce qu'il les a déjà portés. Et regardez et parlez même de la fin qui va forcément déboucher sur sa gloire, sur sa puissance. La paix, dit l'Écriture, et c'est ce que je proclame sur vous aujourd'hui, la paix de Dieu, la sécurité, la sûreté, la confiance, l'assurance, la prospérité, la félicité de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jusqu'à ce que vous ayez tout surmonté pour la gloire de son nom. Amen.